Nation sainte, royaume des sacrificateurs, un ami m'avait posé la question de savoir ce qu'était le karma, les dettes karmiques et la réincarnation. Il voulait connaître ce que la parole révélée, Saint-Esprit, nous explique à ce sujet. Qu'est-ce que le karma d'une personne? Karma vient du sanskrit karman, qui signifie acte ou action, et regroupe donc par définition l'ensemble des actions que nous engageons au quotidien. Pour les bouddhistes, croire au karma permet d'accéder à la sérénité, au calme, de la même manière que pratiquer la méditation, par exemple. Comment agit le karma? Chaque action est précédée d'une intention. La qualité de l'action va dépendre de la qualité de l'intention, de sa motivation. Si l'action est motivée par une intention positive, pure et bienveillante, elle engendrera un résultat ou un effet positif ou bénéfique. Si l'action est motivée par une intention impure, négative et malveillante, elle engendrera un résultat ou un effet négatif ou maléfique. Le karma est également appelé la loi de la causalité ou la loi de cause à effet. Pour les religions hindouistes et bouddhistes, les mauvaises actions passées sont la source de nos malheurs aujourd'hui. Le karma est donc le reflet de nos actions antérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle. On parle ainsi du karma à travers le cycle de l'existence, le cycle des renaissances, le cycle de réincarnation ou encore le samsara. Il s'offre ainsi deux possibilités. Si l'on ne croit pas aux réincarnations, on peut appliquer la notion de karma à notre vie en agissant aujourd'hui pour demain. Si l'on croit aux réincarnations, on peut appliquer ce concept à travers nos différentes vies. Dans cette notion, on peut également, en fonction de nos actes, se réincarner dans un corps d'animal dans une prochaine vie. Si l'on part du principe de continuité, c'est qu'on a été plusieurs animaux précédemment. Et le karma peut être individuel, collectif, familial ou national. Voilà un résumé de ce qu'Internet renseigne à propos du karma, des dettes karmiques et du cycle des renaissances. Toutes ces considérations suscitent d'emblée les questions suivantes. 1. Si la destinée de l'homme est déterminée par les actions passées au cours de ses vies antérieures, qui va en faire la comptabilité et l'analyse pour prendre la décision d'insérer dans son plan de vie les conséquences de ses actions heureuses ou malheureuses et qui va déterminer la qualité des malheurs qu'il est obligé de subir? 2. Toutes ses vies antérieures n'ont-elles pas des débuts? S'il y a un début, c'est-à-dire dans la première vie, il n'y a pas d'action passée. Quelle est alors la source des malheurs de la première vie? 3. Comme ce n'est pas nous qui déterminons nos vies actuelles, alors qui détermine la manière dont les choses et les événements que nous subissons en tout lieu, en tout temps, doivent nous arriver? 4. Nos actions passées ont-elles une conscience pour être en mesure de décider ou de prédestiner ce qu'un homme rencontrera dans sa vie? 5. Est-ce que nos actions passées ont un pouvoir de décision? Ont-elles la connaissance pour diriger notre vie d'aujourd'hui? 6. Si tu crois au karma, tu vas atteindre un état de sérénité, de calme. Est-ce que cet état de sérénité, de calme, peut-il mettre fin à ces fameuses dettes karmiques? Pardon. À qui revient la décision? 7. Où et par qui sont répertoriées les actions passées? Qui déclenche tous ces malheurs qui doivent s'abattre sur les hommes à cause de leurs mauvaises actions passées? 6. 8. Si les actions viennent par des intentions, d'où viennent alors les réactions sans intention, sans préméditation? 9. Ils avancent qu'en fonction de nos actions dans les vies passées, on peut se réincarner dans un corps d'animal. Mais qu'est-ce qui, dans l'homme décédé, va rester pour entrer dans un corps d'animal? Et qui en prend la décision? Est-ce le défunt lui-même? Et qui choisit? Est-ce le défunt? Et comment va-t-il l'ordonner? Est-ce qu'un humain normal peut accepter de devenir animal dans une autre vie? Au fur et à mesure que les questions qui précèdent étaient posées, je sais qu'en vous naissaient déjà certaines réponses. La parole révélée, Saint-Esprit, nous avait déjà expliqué ce qu'était la religion. En effet, la religion, c'est la perception humaine erronée de la réalité divine, résultat des efforts intellectuels humains à travers ses réflexions, sa philosophie, pour expliquer ce qu'il ne comprend pas dans le fonctionnement de la création, pour expliquer tout ce qui nous arrive dans la vie de manière insaisissable, tout ce que nous subissons. Comme ce monde n'est pas notre, comme nous ne nous appartenons pas, il faut que le Créateur lui-même nous fournisse les réponses appropriées à nos questions. Il faut qu'il explique lui-même ce qu'il nous faut savoir. Car nos propres réflexions nous ont conduits et nous conduisent encore à des réponses ignorantielles. Et le Créateur, lorsqu'arrive le moment qu'il a choisi pour nous parler, le fait par une seule voix, la voix de la révélation divine. Et pour ce faire, il choisit toujours une seule personne, choisie à l'avance et formée à cette fin, afin qu'il confie sa révélation et que, à partir de lui, à qui il confie sa révélation, afin qu'à partir de lui, la connaissance se propage et se multiplie dans le monde, que ce soit dans le camp de la vraie connaissance ou dans celui des fausses connaissances. Retenez donc ce qui suit à partir d'aujourd'hui. Au commencement, l'invisible éternel créa la lumière et les ténèbres. La lumière étant la vraie connaissance divine et les ténèbres les fausses connaissances divines. Et la connaissance divine est l'ensemble des réponses divines aux questions que l'homme se pose sur son existence, sur sa vie, sur l'existence et la vie de tout ce qui l'entoure et de l'univers. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Créateur avait résolu qu'il fournirait au monde deux sortes de réponses. Et ces réponses, il les appela ses fils. Et comme nous humains, nous appelons le chef d'un peuple roi, il opta donc de s'appeler roi pour nous, le roi divin, mais il n'est pas comme nos rois qui dirigent un peuple et un territoire qui appartient au Créateur et non pas à eux, mais lui, il dirige et administre tout ce qui lui appartient. Comme il est roi, ses deux fils sont appelés donc princes, l'un à sa droite, comme prince de la lumière, l'ensemble des vraies connaissances divines, il lui donna le nom de Père éternel pour nous. Il est Père, puisque c'est à lui que le Créateur donne la vraie semence connaissancielle pour engendrer tout ce qui serait porteur de sa vraie connaissance éternelle, c'est-à-dire la connaissance qui ne s'éteint pas, qui ne s'éteint point. Et c'est uniquement par la voie de la révélation divine que nous parviendrons les connaissances, les révélations dites Père éternel. Et toutes ces révélations sont appelées Fils de Dieu, Fils du royaume, de la vraie connaissance divine, de la vérité divine, de la justice divine, de la paix divine. Et il l'appela Dieu puissant pour nous, la vraie connaissance divine puissante. À sa gauche, l'autre fils, il l'appela Prince des ténèbres, l'ensemble des fausses réponses divines, des fausses connaissances divines. Et il l'appela Satan, la bête, le grand dragon, le serpent ancien et le diable. Ce sont des noms collectifs qui désignent tous l'ensemble des fausses connaissances divines. Et c'est à partir des cerveaux humains que vont sortir toutes les fausses connaissances divines. Et il les appela fils du malin ou fille des hommes. Ce sont donc les cerveaux humains qui vont produire les religions, c'est-à-dire les fausses connaissances en ce qui concerne la réalité divine. Ce sont donc des porteurs de fausses connaissances divines, des mensonges, des faussetés, des fausses doctrines, des affabulations. Ces fausses connaissances divines, le Créateur les appela autres dieux. À ce stade, vous comprenez que le Créateur n'est pas notre Dieu. Le Créateur n'est pas notre Dieu. Il n'est pas Dieu pour nous. Mais il a créé des dieux pour nous. Le vrai Dieu puissant d'un côté, le Père éternel, et les autres dieux de l'autre, Satan la bête. Et ils sont tous, non des êtres individuels invisibles, revêtus de pouvoirs extraordinaires, mais des connaissances divinités qui sont véhiculées soit par la vraie parole divine, soit par des fausses paroles divines. Et ces dieux ne circulent pas dans l'univers et ne planent pas dans les firmaments. Ces dieux qui sont des connaissances n'ont que deux lieux de résidence et d'existence. Soit la mémoire indélébile du Créateur, soit les cerveaux humains. En dehors de ces deux lieux, ils n'existent nulle part. Pourtant, les fausses connaissances divines nous ont enseigné que les dieux résidaient soit dans les astres, les planètes, le ciel, les montagnes, les mers et océans, les forêts et savanes, les fleuves et lacs et autres. Tous ces faux dieux inventés par l'homme n'existent pas et n'ont jamais existé et n'existeront jamais. Sachez aujourd'hui et de manière claire et définitive que le Père éternel et Satan la bête n'ont que deux lieux de résidence et d'existence, la mémoire indélébile du Créateur et la mémoire des cerveaux humains. Le Père éternel et ses composants qui sont le Fils, le Saint-Esprit et le Père, tout comme Satan et ses composants, le dragon du ciel, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, sont tous des connaissances divinités qui ne se retrouvent que dans la mémoire du Créateur et dans les cerveaux humains. Ils ne sont donc, en dehors de ces deux endroits, nulle part dans la création, nulle part nulle part. Tous les dieux qui semblent exister ne le sont que dans les imaginations malheureuses des hommes. En outre, et le Créateur appela ses connaissances divinité esprit. Ici, vous vous rendez compte que le Créateur n'est pas esprit, mais qu'il a créé des esprits pour nous. Le Père éternel, qui est unique, est l'esprit du Créateur, le vrai esprit. Et Satan la bête, qui est multiple et multiforme, ce sont les faux esprits ou autres esprits. Le mot « esprit » est l'identifiant cacheté de la connaissance divinité. Donc le vrai esprit est la vraie connaissance divinité et les faux esprits sont les fausses connaissances divinité. Et en tant que connaissance, les deux types d'esprits n'ont que deux lieux de résidence et d'existence. Soit la mémoire du Créateur, soit la mémoire des cerveaux humains. Leur unique voyage est celui de quitter la mémoire du Créateur pour venir s'installer dans les cerveaux humains. Ce sont donc les seuls esprits dont le Créateur avait ordonné l'existence. En dehors de ces deux esprits, il n'existe aucun autre esprit qui soit. Lorsque vous dites que l'homme a un esprit, est doté d'un esprit, vous comprenez que les seuls esprits qui peuvent habiter dans l'homme, ce soit le Père éternel ou son composant. Ils sont alors le sceau de Dieu. Et c'est soit Satan, les faux esprits, et c'est cela la marque de la bête. En dehors de ces deux esprits, l'être humain n'a aucun autre esprit qui lui appartienne en propre. Et ces deux esprits ne peuvent être transmis d'un homme à un autre que par l'enseignement. Ces esprits qui sont des connaissances, ne peuvent jamais quitter les cerveaux humains. Les voyages des esprits humains enseignés par la bête ne sont donc que des faussetés. Que dire alors des esprits célestes, supracélestes, terrestres et marins? Les esprits supracélestes sont des connaissances divinité contenues dans la parole supracéleste, tant du côté de la lumière que de celui des ténèbres. Les esprits célestes sont les connaissances divinités que l'on trouve dans la parole céleste du côté de la lumière, tout comme du côté des ténèbres. Les esprits terrestres et marins sont des connaissances divinités qui sont dans la parole terre ou dans la parole mer. Ce sont des connaissances et en dehors d'elles, il n'y a aucun autre esprit qui ait été créé. Le Père éternel est l'esprit de vie, c'est-à-dire la parole de la vraie connaissance divine, et Satan la bête est l'esprit de mort, c'est-à-dire la parole de fausse connaissance divine. On ne peut les trouver que soit dans la mémoire du Créateur, soit dans les cerveaux humains. Et c'est du vivant de l'être humain qu'on peut les trouver. Les esprits de mort ne sont pas dans les cimetières, mais dans les cerveaux des êtres humains. Vous comprenez donc que les esprits de mort, fabriqués par l'ignorance, n'existent pas. Le Créateur fait tout pour un but, et jamais sans but. Oui, c'est vrai. L'ignorance avait inventé et continue à inventer ses propres esprits, qui sont des êtres individuels indépendants de Dieu, du Créateur, réfléchissant et agissant, capables de créer des situations, de provoquer des événements, et j'en passe. C'est du pur mensonge. Le Créateur ne pouvait pas se permettre de créer des êtres qui le concurrenceraient, qui lui barraient la route, qui contrecarraient ses plans. C'est tout simplement fou tout cela. C'est fou. Sachez aujourd'hui qu'ils n'ont jamais existé et qu'ils n'existeront jamais. Si on veut les trouver, on va les trouver uniquement dans les imaginations morbides des hommes. N'ayez donc plus jamais peur des esprits imaginaires fabriqués par les hommes et qui vous ont longtemps enfermé dans la panique devant ces êtres qui n'existent pas. Et ce sont ces pensées humaines qui provoquent des sensations psychotiques lorsque vous vous retrouvez dans des lieux isolés. Maintenant que vous connaissez la vérité, bannissez donc vos peurs, sortez donc de cette torpeur. Car tout évolue, même vos corps physiques, vos continents, vos pays, vos villes, les animaux, les poissons, les insectes, bref, tout l'écosystème et la biodiversité évolue imperceptiblement sans que vous ne vous en rendiez compte. Évoluez donc dans la connaissance divine. Sachez aujourd'hui que tous les esprits imaginaires inventés par les bêtes, la bête comme esprit de sécheresse, esprit de mort, mari et femme de nuit, les enfants de nuit, esprit de célibat, esprit de vieillesse, les sirènes, esprit de cancrelat, esprit de moustique, et j'en passe, n'existent pas du tout. Ils n'existent pas du tout et ils n'existeront jamais. Quelqu'un peut poser la question suivante. Les anges de lumière, les anges des ténèbres et les démons, ne sont-ils pas des esprits? Oui, les anges et les démons sont des esprits, mais pas dans le sens que la bête et ses adorateurs ont enseigné. En effet, les anges sont les composants connaissantiels de l'esprit qu'est le Père éternel ou des faux esprits qu'est Satan, la bête, le diable, le serpent ancien. Lorsque le Père éternel est divisé en trois, c'est-à-dire le Père, le Saint-Esprit et le Fils, nous avons là les trois anges qui enseignent l'évangile éternel. Ce sont les anges de lumière, c'est-à-dire les anges de la vraie connaissance divine. Le Père éternel et le Saint-Esprit sont composés chacun de 12 révélations. Cela signifie qu'ils sont composés chacun de 12 anges. Du côté des ténèbres, les composants des paroles dites Satan, la bête, le dragon, le serpent ancien et le diable sont des anges des ténèbres, entendez, les anges des fausses connaissances divines. Les démons sont des anges mélangés, lumière et ténèbres, des connaissances hybrides. Toutes les images que le Créateur avait projetées à leur sujet n'étaient que de simples images qui n'ont qu'une existence virtuelle et non concrète. Dans le concret, aucun ange de lumière, aucun ange des ténèbres, aucun démon n'existe. Chasser les démons, c'est enseigner les anges de lumière, les transmettre à l'interlocuteur afin que ceux-ci puissent prendre la place des démons, des paroles mélangées, des anges des ténèbres qui y avaient élu domicile. Notez aussi que les anges et les démons n'ont que deux lieux de résidence et d'existence. Soit la mémoire du Créateur, soit les cerveaux humains. En dehors de ces deux endroits, ils ne vivent et n'existent nulle part ailleurs. Vous devez saisir donc que les seuls esprits pouvant demeurer dans l'être humain, c'est soit le Père éternel, soit Satan la bête. Tout être humain a soit l'un, soit l'autre. Quelqu'un peut dire qu'il ne croit ni en Dieu, ni en le Créateur, ni en Satan. Oui, il est libre de le faire. Il est libre de le faire. Mais ce qu'il ne sait pas est que le fait de ne pas croire en le Créateur ou de récuser sa direction, sa gestion et son administration de l'univers, lui qui décide de tout et qui ordonne tout, procède de Satan la bête. Tout comme le fait de déclarer que la nature s'est créée elle-même ou que plusieurs forces inconnues, autres que les créateurs, dirigent le monde, provient également de Satan la bête. Oui, ça provient de Satan la bête, puisque ce sont des fausses connaissances divines. Aucune possibilité de choix n'est réservée à l'être humain. Ou bien il a le Père éternel, ou bien il a Satan. Et un jour, le Créateur appela le Père éternel arbre de vie, et Satan arbre de toute espèce. Donc, arbre de vie signifie Père éternel, et arbre de toute espèce veut dire Satan. Ceci vous fait comprendre déjà que le jardin d'Éden n'a jamais été un jardin botanique, mais plutôt le jardin de la connaissance divine. En outre, le Créateur appela le Père éternel homme, son image et sa ressemblance. Et il appela Satan bête, sa fausse image et sa fausse ressemblance. Vous appréhendez ainsi, à bien avant même que nous puissions entrer un jour en profondeur dans ce qui précède, vous appréhendez ainsi que ce ne sont pas les êtres humains qui sont ces images et ces ressemblances. Ce ne sont pas les êtres humains qui sont son image et sa ressemblance. Maintenant que vous connaissez l'esprit, le seul esprit qui puisse résider dans l'homme, et celui-ci ne peut pas se retrouver dans les animaux, les plantes, les mers, les fleuves, ils n'y sont pas. Le Père éternel ne peut pas résider dans un animal, il ne peut pas résider dans un insecte, il ne peut pas résider dans une plante. Il ne peut pas résider dans une pierre, tout comme Satan, la bête. Ils ne peuvent résider que dans les cerveaux humains. Alors, vous devez savoir que tous les êtres vivants, autres que l'homme, sont dépourvus d'esprit. Tous les autres, les êtres vivants, autres que l'homme, sont dépourvus d'esprit. À ce stade, nous connaissons déjà l'esprit. Qu'en est-il de l'âme de l'être humain? Lorsque un bébé naît, Il n'a que son corps physique. Il n'a ni âme ni esprit. L'esprit de l'homme va commencer à se former dans son cerveau lorsqu'on va commencer à lui apprendre soit le Père éternel, soit Satan. Mais pour qu'on le lui enseigne, il faut que son âme ait d'abord été formée afin qu'elle soit en mesure de recevoir l'esprit. L'être humain détient trois types de savoir. 1. Le savoir instinctif et intuitif qu'il partage avec tous les êtres vivants, nécessaire à l'entretien, la protection, la production, la reproduction de l'espèce, ainsi qu'à son penchant grégaire. 2. Le savoir physico-matériel et social individuel logé dans son cerveau, et celui-ci est charrié par une langue. C'est cela son âme individuelle. Et la langue de l'âme est nécessaire, car c'est elle qui est utilisée par la connaissance divine pour pénétrer dans le cerveau humain. Et ce savoir physico-matériel et social est progressif et développant. Vous notez déjà que le savoir progressif physico-matériel et développant ne se retrouve pas dans les autres êtres vivants, ni dans toute la création. Ce qui veut dire que les autres êtres vivants sont dépourvus d'âme. La différence entre un être humain et un autre être vivant est que l'homme, l'être humain, détient cette connaissance-là, ce savoir progressif et développant physico-matériel et social, alors que les autres êtres vivants en sont dépourvus. Donc, ils n'ont pas d'âme. Je vous ai déjà dit qu'ils n'avaient pas d'esprit. Maintenant, je vous dis qu'ils sont dépourvus d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Seul l'être humain a l'âme et l'esprit. 3. Le savoir connaissantiel divin qui est aussi progressif et développant, logé dans le cerveau, c'est cela, son esprit. Vous voyez bien que, en dehors de l'être humain, si les autres êtres vivants n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas d'âme non plus. Qu'est-ce qui se passe alors? À la mort de l'être humain, lorsque s'éteint son cerveau, 1. Son corps physique achève sa course sur la table chimique de Mendeleïev, ou mieux, sur le tableau périodique des éléments. Désagrégé donc, son corps physique n'existera plus jamais. 2. Lorsque son cerveau s'éteint, son âme s'éteint tout autant, se dissipe et son âme n'existera plus jamais. 3. Son esprit s'éteint, se dissipe et il n'existera plus jamais. Il ne reste donc plus rien de l'être humain qui a vécu. Lorsque vous apprenez que quelqu'un vient de perdre la vie, vous avez l'habitude de dire « paix à son âme ». Maintenant, vous savez ce que c'est l'âme. Maintenant, vous savez ce que c'est la paix, c'est-à-dire le Père éternel. Un être décédé qui n'a plus d'âme qui pour recevoir la paix, c'est-à-dire le Père éternel. Alors, quelle paix vous lui souhaitez et à quelle âme? Quelle paix vous lui souhaitez et à quelle âme? C'est du vivant de l'être humain que vous pouvez lui dire que la paix soit avec vous, c'est-à-dire que la connaissance divine, le Père éternel, soit avec vous. Mais à son décès, en lui, dans lui, le Père éternel s'est dissipé. Son âme s'est dissipée. Donc ce sont des mots vains que nous prononçons à chaque fois que nous apprenons le décès de quelqu'un. Vous voyez bien que, en dehors de l'être humain, tous les autres n'ont pas d'âme. Et les âmes et les esprits des êtres humains ne voyagent pas, ne circulent pas. Mais non, à la fin de la vie de l'être humain, que reste-t-il encore? Que lui reste-t-il encore qui puisse se réincarner ou entrer dans un corps d'animal? La réponse, rien. Et rien du tout. Donc la réincarnation n'existe pas et le karma n'existe pas. Les songes et les visions ont trompé l'humanité. Quand dans un songe ou une vision, vous voyez d'autres êtres qui parlent et qui agissent, ce n'est pas vous ou les autres êtres dans ces songes et visions que vous voyez. Ce ne sont que des formes qui vous ressemblent. Lorsque votre image parle ou agit, ce n'est pas vous qui parlez ou agissez. C'est le Créateur lui-même qui anime ces êtres et qui les fait parler pour transmettre un message généralement cacheté. La bête a enseigné que ces formes-là étaient vos âmes ou vos esprits, ce qui est faux. Faux. Vos âmes et vos esprits individuels sont vos connaissances individuelles, tantôt physico-matérielles et sociales, tantôt connaissancielles divines. Ils ne peuvent donc ni parler, ni se mouvoir. Les visions et les songes ne sont que des messages cryptés du Créateur. Seuls deux esprits peuvent les décaster. Si c'est le Père éternel, il vous fera connaître le vrai message y contenu. Et si c'est la bête ou Satan, il va vous y donner de fausses explications. C'est sa mission, c'est son rôle. Et bien voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre voyage céleste connaissantiel et je crois que la révélation de cet esprit vous aura conquis. Et ce sera tout pour ce jour. Merci.